Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8.
Aujourd'hui, on va vous présenter le roman L'Avenir de Catherine Leroux. Il a été publié au Québec en 2020 aux éditions Alto et en France chez L'Asphalte Édition en 2022 pour le grand format et en 2023 pour le poche. L'écrivaine québécoise Catherine Leroux est née en 1979 dans une banlieue de Montréal. Elle a exercé de nombreux métiers, vendeuse de chocolat, bergère, enseignante, bibliothécaire, avant de se lancer dans le journalisme, puis dans l'écriture de romans, la traduction littéraire et plus récemment l'édition. Son premier roman, La Marche en forêt, paraît en 2011 et est finaliste pour le Prix des libraires du Québec. Depuis, elle a reçu de nombreuses distinctions, autant pour son œuvre littéraire que pour ses traductions. L'Avenir, dont on vous parlera aujourd'hui, est son cinquième roman paru en 2020. Dans son dernier roman, sorti tout récemment sous le titre Peuple de verre, elle développe une dystopie autour de la crise du logement qui frappe actuellement la ville de Montréal. La plupart des écrits de Leroux sont ainsi ancrés dans des faits réels, à partir desquels l'autrice bâtit des univers vastes et complexes avec de nombreux personnages et des éléments parfois fantastiques, ou, pour le dire avec ses propres mots, elle aime suspendre les règles de la réalité. Son écriture se caractérise aussi par une langue travaillée et sensible.
Je pense que je suis quelqu'un qui, mon amie Laurence Tremblay-Ouellet appelle ça la maladie des mots. Quelqu'un qui est obsédé par les mots, qui réfléchit beaucoup, que même des fois dans mes communications interpersonnelles, j'ai des enjeux parce que si c'est pas le bon mot qui est utilisé, moi, ça change tout, là. J'aime que les choses soient bien dites. La façon dont les choses sont phrasées, sont exprimées compte énormément pour moi, presque autant que ce qui est dit. Donc, je pense que c'est ça que je viens chercher dans l'écriture, mais aussi dans la traduction, parce que traduire, c'est beaucoup ça, c'est de la gymnastique verbale, c'est de la gymnastique linguistique, des acrobaties même des fois. Puis je fais de l'édition depuis une couple d'années aussi, puis là aussi, c'est beaucoup de réfléchir aux mots, aux phrasés, au rythme des phrases, des paragraphes, etc. Donc ça, c'est une des dimensions qui est vraiment importante pour moi. Puis l'autre, bien, c'est juste le plaisir de raconter des histoires. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui abordent le monde en termes de narration. Moi, tout ce qui m'arrive, si je le raconte à quelqu'un d'autre, ça devient, je l'organise comme une histoire. J'ai souvent pensé aussi que j'ai été quelqu'un qui a mis vraiment du temps à se brancher sur quelle sorte de vie je voulais vivre, quelle sorte de, bon, avant de devenir écrivaine, quelle sorte d'emploi je voulais occuper, quelle sorte d'études je voulais faire. Et être écrivaine, dans le fond, c'est une façon de jamais avoir à choisir, d'une certaine manière, parce qu'on peut vivre mille vies à travers ces personnages, on peut s'inventer toutes sortes d'histoires. Donc, c'est un peu tout ça.
Le roman L'Avenir commence avec l'histoire de Gloria, qui s'installe dans la maison de sa fille, qui vient de mourir assassinée. Et Gloria, elle tente de retrouver ses deux petites filles, qui ont disparu suite à la mort de leur mère. Et en fait, ce roman, c'est pas du tout un thriller. Il entremêle le récit de nombreuses personnes qui vivent dans la ville dévastée de Fort Detroit. D'un côté, il y a les voisins et voisines de Gloria, qu'elle rencontre petit à petit. Et de l'autre, un groupe d'enfants qui vivent dans un campement, sans adulte, en autonomie. Gloria, elle cherche donc ses petites filles et aide sa voisine à comprendre qui a tué son père, renversé par un chauffard. Et petit à petit, elle découvre le terrible passé de sa fille dont elle s'était éloignée. De l'autre côté, les enfants survivent avec des petits vols, de la récup, mais surtout grâce à leurs imaginaires, leurs rêves et leurs jeux. Le dernier personnage du livre, d'une manière, c'est la ville où se déroule l'histoire.
L'avenir, c'est une uchronie. Donc, j'ai réinventé un peu l'histoire de la ville de Détroit que j'ai appelée Fort Détroit, qui était son nom d'origine quand elle a été fondée par Cadillac. Donc, une version fictive et francophone de la ville de Détroit, mais qui possède beaucoup des attributs de l'histoire de la Détroit réelle, dont des difficultés économiques et sociales. Pourquoi Détroit? Parce que il y a quelques années, j'ai commencé à avoir une fascination pour la nature urbaine, les espaces ensauvagés ou restés sauvages des villes où les fleurs et les plantes poussent un peu pêle-mêle comme ça. Et c'est pendant cette période-là que j'ai découvert un documentaire d'un Français, en fait, Florent Tillon, sur la ville de Détroit qui s'appelle Détroit, ville sauvage, et qui s'intéresse exactement à ce phénomène-là, la nature urbaine et le retour de la nature dans les villes. Et ça a vraiment été le point de départ de mon histoire. Puis en lisant sur Détroit, en plus, Détroit, c'est une histoire tellement fascinante. Il y a des mythes, il y a les incendies, il y a la violence qu'on lui prête, qui est pas toujours à ce point extrême. Donc il y avait beaucoup d'éléments dans la vraie ville de Détroit qui m'ont interpellée, qui m'ont inspirée.
Ce roman n'est pas édité dans une maison spécialisée en science-fiction et dans les librairies, il est souvent rangé dans la littérature générale. Nous choisissons d'en parler car il se situe entre l'uchronie et l'anticipation politique en poussant un imaginaire catastrophiste sur les questions à la fois sociales et environnementales. Et ça, c'est un des points qui est super intéressant du roman. Beaucoup de bouquins de science-fiction, et particulièrement en ce moment, se construisent sur des imaginaires apocalyptiques. L'intérêt de l'avenir est que Catherine Leroux nous parle plutôt du sinistre. La Terre n'est pas uniformément détruite, tout le monde ne subit pas la misère ou la pollution de la même manière ou à la même échelle. Fort Détroit est véritablement sinistré, mais tout le monde ne peut pas quitter la ville et souvent la question ne se pose même pas.
En chemin, elle pense aux villes qu'elle a connues. Aucune ne ressemble à celle-ci. Aucune, réalise-t-elle, n'est aussi honnête. Constamment surveillées, restaurées, rajeunies, les autres villes entretiennent la fable de l'immuabilité. Les constructions humaines sont éternelles. Un Fort Détroit, ce mythe n'existe plus. L'impermanence des objets, leur fragilité face aux éléments, crève les yeux. La chaussée disparaît par morceaux, les trottoirs se désagrègent, les troncs dénudés qui soutiennent les fils électriques se couvrent d'une vie nouvelle qui grimpe et se greffe au bois poreux. Les maisons sont éventrées, écartelées par le feu et l'abandon. La nature revient les posséder. Elle se laisse dévorer.
L'intérêt de ce scénario est qu'il apporte une complexité sociale. Il sort d'une vision libérale, par exemple, d'un héros qui survit et essaye de protéger sa famille dans un monde dévasté. Dans cette histoire, Gloria choisit de venir dans cette ville, alors même qu'elle a été désertée par de nombreuses personnes, et notamment les plus riches. C'est Salomon qui raconte.
L'exode des fortunes. Ça, c'est quand les riches sont partis avec leur business, puis l'argent, puis qu'ils ont laissé les pauvres s'arranger avec le chômage, les infrastructures débrettées, les quartiers pollués, la ville en faillite. Fort Détroit s'est retrouvé seul au monde. Les Américains n'ont plus rien voulu savoir d'investir ici. Le gouvernement a fait mine d'aider ceux qui restaient, mais ils fournissaient pas. Puis, au fond, ils sont sacrés un peu de cette gang d'immigrants, d'illettrés, des inférieurs qui voulaient pas rester tranquilles. On a été placé dans une quarantaine qui finit plus.
Catherine Leroux décrit une société sur le déclin, sans service public ni prestations capitalistes, pleine de misère et de violence, mais qui reste malgré tout un lieu de vie et de solidarité. L'image de l'apocalypse est décalée avec une ville qui n'est pas grise et poussiéreuse, mais pleine de plantes qui poussent dans tous les sens malgré la pollution. L'autrice arrive à décrire tout cela avec beaucoup de beauté et de poésie, dans un mélange de beau et de trash.
C'était 7 ou 8 ans auparavant. Debout au milieu de sa cour veinée d'une neige sale, elle n'était vêtue de rien d'autre que d'un peignoir ouvert qui révélait ses côtes pointues et ses petits seins. L'apercevant de sa cuisine, Eunice s'était élancée pour lui enjoindre de rentrer, mais une fois sur le balcon, elle s'était interrompue. Un air d'opéra italien coulait de sa voisine comme l'eau d'une source, transformant l'espace en enceinte sacrée. Un point au centre de la poitrine d'Eunice s'était réchauffé. La bouche arrondie, le visage détendu, Judith faisait déferler sa voix dans la douceur de mars. Son chant, absorbé puis réverbéré par l'humidité de l'air, était projeté aux quatre coins du quartier, tandis que ses cheveux longs et sales flottaient autour d'elle comme une chape. À cet instant, elle était une reine, et la ville de Fort Détroit, ses armées de chômeurs, son sérail d'accrocs, sa noblesse sans le sou, étaient bénies par sa voix. Puis, Eunice s'était ressaisie. Il faisait 3 degrés. Judith était à moitié nue. Il fallait faire quelque chose.
Cette manière d'écrire de Catherine Leroux, ça fabrique un regard moins jugeant sur la misère. Mais on peut aussi se questionner sur la dimension exotisante que cela pourrait générer, même si on a eu l'impression que ça crée pas ça. Et par ailleurs, la recherche de beauté dans la mocheté des choses, c'est un bel écho à une autre thématique du livre, la question de la solidarité. La manière où, malgré toutes les difficultés, des personnes se réunissent et se soutiennent mutuellement. Comme elle l'explique dans une interview lors du festival L'étonnant voyageur à Saint-Malo, Catherine Leroux développe les questions de la solidarité, du soin et de l'entraide.
Je me suis beaucoup inspirée aussi des travaux d'une essayiste américaine qui s'appelle Rebecca Solnit, qui, elle, postule qu'en fait, en situation de grande crise, ce n'est pas que le chaos et la loi du plus fort qui prévalent, c'est aussi beaucoup la solidarité, le sens de la communauté et la coopération, en fait. C'est ce qui fait la particularité de notre espèce humaine, c'est son intelligence et c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi la nécessité de coopérer. Donc, c'est ces idées-là que j'ai voulu explorer dans mon roman.
Dans le quartier où arrive Gloria, il y a une sorte de dispensaire. Les personnes s'entraident pour les transports ou se soutiennent affectivement. Chacun chacune le fait à sa manière. En entretenant les maisons vides, en jardinant et en partageant les légumes, en exerçant son métier d'infirmier ou en tirant les cartes.
Levant les yeux, elle sursaute en apercevant Salomon qui s'est rapproché. « C'est des sornettes l'astrologie, » déclare-t-il. « Si tu veux connaître l'avenir, essaye le tarot. » Je passerai avec mes cartes. T'as pas mal de questions, j'imagine. Gloria dévisage Salomon, qui lui adresse un clin d'œil bienveillant avant de charger la brouette de plants de tomates. Tiens, chère Eunice, puisque t'es si pressée d'avoir tes tomates, pars avec ça. On va embarquer le reste dans le pick-up demain.
Cette question du soutien est développée de manière assez maline et les besoins de chacun chacune ne sont ni présupposés ni jugés. Par exemple, quand les adultes discutent de trouver une maison pour les enfants.
« Attendez minutes, » interrompt Buche. « Leur avez-vous demandé leur avis à ces kids-là ? Ils ont peut-être pas le goût, eux autres, d'aller se cabaner sur la rue Amir pour 5 mois de temps. S'ils voulaient vivre en ville, ils feraient. C'est pas les spots qui manquent. » Les 5 autres se regardent. L'agacement irradie Denise, tandis que Francelin semble avoir déjà balayé cette objection du revers de la main. « Je suis pas en désaccord, » déclare Salomon. « Ils ont vécu des choses, ces petits-là. » Puis, ils s'en sont sortis en apprenant à s'arranger tout seul. On ne peut pas arriver et leur imposer nos solutions, ça donnera rien.
Dans le roman L'Avenir, certains des adultes ont de chouettes rapports avec les enfants. Par exemple, en cultivant trop de légumes et en laissant les enfants en voler une partie. D'une manière, cette personne leur permet d'avoir des légumes et de manger, mais sans leur imposer une relation d'aide qui pourrait être paternaliste. Et à travers le vol, les enfants gardent leur indépendance.
La première fois, le vieux n'était pas là et les fois suivantes, il ne paraissait pas remarquer sa présence. Beg a mis du temps à comprendre qu'il faisait semblant de ne pas le voir, lui qui se croyait si subtil. Il soupçonne maintenant que le cultivateur mettait en évidence les fruits les plus mûrs, les légumes les plus croquants, des aliments que Begg n'avait jamais vus, mais qu'une zone indistincte de son esprit reconnaissait comme comestibles. En plus des légumes, le vieil homme abandonnait parfois une cuisse de poulet, un pain, des biscuits, que Begg engloutissait tout rond au début, puis avec plus de mesure, goûtant les sucres et les amers, laissant les nutriments faire pousser son corps avec plus de sérénité. Puis le vieux s'est mis à oublier d'autres objets, des vêtements, des bottes et, un jour, des livres.
L'entraide, c'est aussi des moments de travail collectif, dans le jardin entre autres. Et ce sont souvent des moments de complicité, de discussion, d'intimité, mais surtout ils sont présentés comme des moments joyeux où tout le monde prend plaisir à faire ensemble et à se retrouver.
Même si on lui avait déjà parlé des corvées collectives comme de sortes de fêtes, Gloria ne s'attendait pas à ce que le grand ménage du dispensaire de Théophile soit aussi joyeux. La maison est pleine de gens, certains de l'avenue Clyde, d'autres inconnus à Gloria. Les Détroit Fortin viennent de loin pour se faire soigner par Théophile, évitant ainsi la seule salle d'urgence de la ville où éclopés et pneumoniques attendent parfois 2 jours avant de pouvoir parler au moindre aide-soignant. Lorsqu'il a demandé de l'aide, ses patients se sont ralliés. Pendant qu'une dizaine de personnes recurent le rez-de-chaussée en se renvoyant des chansons à répondre, Gloria aide Francelin à aménager une chambre à l'étage. Vous êtes toujours à l'écoute de Vortex et Rotative sur Radio Dragon et Radio Campus Grenoble.
Aujourd'hui, on vous parle du roman L'Avenir de Catherine Leroux. Le roman L'Avenir de Catherine Leroux est riche de plein d'autres choses sur les questions de soins et de relations. Le sujet du deuil et de la mort, par exemple, est très présent, puisque dans cet univers très dur, les personnes sont tous confrontées à la perte de personnes qui leur sont chères et elles doivent faire face au regret, à la tristesse ou à la colère. Le roman raconte aussi des rituels collectifs ou individuels pour guérir ses blessures ou chercher des réponses. Par exemple, Gloria prend des bains dans la baignoire où sa fille Judith a été retrouvée morte pour lui poser des questions.
Elle pleure doucement en actionnant les robinets, l'eau chaude, puis l'eau froide. Ses vêtements tombent, flasquent, sa peau ne frémit pas. Lorsque le bain est rempli aux 3/4, elle glisse dans l'eau tiède avec révérence et appréhension. L'eau lui caresse le menton. Elle dit « Judith, parle-moi », puis elle enfonce la tête sous l'eau. Et elle écoute.
Et par ailleurs, le soin ne se joue pas seulement entre les êtres humains. Quelques animaux non humains sont très importants dans le récit et sont même parfois narratrices. Une chienne, un cheval, un mulot, qui soutiennent des humains et reçoivent leurs soins et leur attention.
Elle continue de sillonner le quartier. Une vieille femme aux doigts crochus veille dans son jardin. Armée d'une carabine, elle attend les bêtes qui veulent grignoter ses plantes. Flairant la proximité des balles, la chienne passe de l'autre côté de la rue. Derrière un mur au parfum douceâtre de moisie, 2 femmes échangent des rires à voix basse, comme si chez elles, la joie était un secret. Dans la cour voisine, un homme épuisé de prendre soin des autres s'allume une cigarette. Plus loin, un autre, très pâle, rentre chez lui. Une odeur chimique le suit comme une ombre qui va l'effacer. À côté, le squelette d'un bâtiment pousse dans la nuit. En face, la maison jaune et la verte continuent de respirer l'une contre l'autre. Dans la première, la femme molle fait les 100 pas. Dans la seconde, la femme dure essaye de dormir sur un deuil comme sur un tapis trop rêche. La chienne écoute leur respiration trouble, puis elle se couche entre les 2 demeures. Il fait bon dormir près des humains meurtris.
Thank you.
Un autre endroit dans le roman L'Avenir, où on retrouve des liens complexes d'interdépendance et de coopération, marqués par la violence mais aussi par l'amitié, c'est le campement des enfants. Il s'agit d'enfants de différents âges, des mini jusqu'aux plus grands, qui se retrouvent livrés à eux-mêmes et se débrouillent dans un mélange de chaos, de structures hiérarchiques et de lois arbitraires, autant que de liens d'entraide et de soins réciproques.
Ils sont assis, plus en tas qu'en cercle, mais c'est comme ça qu'ils sont bien, surtout les mini, à côté en grappe, sur le dos des autres, comme si c'était des oreillers. Vlim, en particulier, a pris une pose de pacha. Elle est épuisée par la construction du radeau qui siphonne ses journées, ainsi que celle de 5 ou 6 autres braves. Beg est lui aussi vautré contre ce noyau de tout petit. Et il pourrait tout aussi bien être un des leurs, il a la même taille. Seul le fait qu'il sache lire et écrire le différencie des autres, si bien qu'on ne sait jamais si c'est un grand avec un corps de mini ou un mini avec un cerveau de grand. Magie est affalée d'un côté, Yatim de l'autre, tous deux servant à la fois de digue et de coussin au tout petit.
Ces enfants se créent un monde à eux, et elles s'auto-éduquent, se transmettent des savoir-faire, se racontent des histoires pour s'endormir, se créent un langage à eux, avec des formes grammaticales déviantes, mais qui deviennent vocabulaire partagé, tout autant que les noms inventés pour désigner des choses inconnues, comme divers légumes et fruits, tels que les cœurs juteux, les gourdins verts, les mini-ovnis ou encore les petites rougettes. Et elles sont pleines à être marquées par la violence, la mort, l'abandon. Et Leroux réussit de manière assez remarquable à nous raconter autant leurs souffrances que leurs stratégies de survie et leur capacité de trouver des ressources émotionnelles et des formes d'autonomie.
Elle inhale, 1, 2, 3 fois, renversant la tête. Quand son visage réapparaît, il ne reflète pas l'extase. Il est contorsionné, laid comme une plaie. Elle tousse, grogne, puis les convulsions s'emparent de son corps. Elle s'efface au sol. Ses pieds minuscules sursautent dans tous les sens. Sa peau se métallise, puis soudainement, plus rien. Elle émet un dernier borborygme et meurt. « Franchement, ça a pas l'air d'être ça, une overdose !» siffle Méthode. « Chut !» coupe l'ego. « C'est le temps d'aller !» D'un seul mouvement, les petites silhouettes bondissent de derrière le vieux canot et les deux dealers sursautent à l'unisson. « Vous avez tué notre sœur. C'est pas notre faute. Oui, ce serait de votre faute. Vous coupez votre stock avec de la cochonnerie. » Les armes apparaissent et les coups pleuvent. Yatim vise les rotules des deux truands. Jolie tente d'en scalper un avec son opinel. Adidas perce un œil à l'aide d'un clou. Méthode pousse le canon de son revolver dans la gueule du plus vieux pendant que Lego lui vide les poches pour aller jeter la drogue dans le feu. Enfin, on plante de longues lames dans le cœur des vendeurs de mort qui crèvent en même temps, leur faux sang mêlé à de la vraie boue.
S'il y a des scènes de jeu qui glacent le sang à la lecture, comme celle que vous venez d'entendre, il y a aussi des moments très tendres, où des enfants prennent soin d'autres enfants, où certains développent une sorte de sagesse et comprennent intimement la détresse des autres et ce qu'il leur faut pour guérir. Comme par exemple la petite Vlim, qui décide de sauver son grand frère, pris au piège dans un engrenage de haine, d'angoisse et d'impuissance.
Vlim ne sait pas ce qui est permis. S'il a le droit de partir, s'il pourra revenir, comment ils feront pour punir les méchants sans lui? Mais elle sait que son frère doit sortir de là. Il faut que l'ego quitte la forêt, qu'il traverse la ligne des arbres, cette frontière qui coupe le souffle. Comme quand on pousse très fort contre une chose qui cède tout d'un coup. Il faut qu'il vive ce passage de l'univers serré et touffu du ravin à celui vaste et aéré de l'extérieur. Il n'est sorti du camp qu'à 2 occasions depuis la fin de l'hiver et, chaque fois, c'était pour accomplir une mission qu'il n'était pas heureux d'exécuter et dont il est revenu encore plus maussade qu'avant. Vlim ne comprend rien aux problèmes des grands, à ceux qui pleurent ou se fâchent pour des raisons invisibles. Mais elle est certaine d'une chose. Rien ne soigne plus efficacement la mauvaise humeur que de jouer avec des bébés chiens.
J'aime beaucoup comment Catherine Leroux raconte tout ça sans tomber dans la romantisation des rapports entre les enfants. Leurs relations sont loin d'être tout roses. Il y a des rapports de pouvoir, de jalousie, de domination. Il y a des incapacités, des manques, de la méchanceté et de la solitude. Malgré tout ça, ces enfants sont impressionnants et très beaux, chacun à sa manière. À plein de moments, la limite entre imaginaire et réel devient assez floue. Certains enfants semblent avoir des pouvoirs magiques. Yael parle avec les animaux, modifie le temps, s'envole. Et ces jeux d'imaginaire ou d'interprétation de la réalité créent une dimension fantastique. Un peu dans le style du réalisme magique, qu'on connaît dans la littérature d'Amérique latine notamment. Comme un effet de miroir, cette dimension surnaturelle existe aussi du côté des adultes, en forme d'horoscope, de tarot ou de séance pour communiquer avec les morts. Mais alors que les enfants y adhèrent pleinement, c'est beaucoup plus mitigé du côté des adultes, qui restent parfois critiques et n'y vont qu'à reculant, comme si elles ne pouvaient pas assumer que la réalité puisse être beaucoup plus souple que la vision rationnelle adulte.
La langue de mes personnages, c'est une langue inventée. C'est pas une langue qui est parlée telle qu'elle au Canada. C'est à la fois un hybride de tous les dialectes francophones locaux, mêlé avec beaucoup d'anglicismes, de structures, pas nécessairement que des mots de vocabulaire anglais, mais aussi des structures syntaxiques anglophones, et des archaïsmes. Donc, je suis allée chercher dans des registres d'expressions anciennes, d'expressions franco-ontariennes particulièrement, et j'ai tout mêlé ça, et ça a donné cette langue inventée, coloré, parce que je me disais que, bon, il n'y a plus beaucoup de francophones dans la région de Détroit, il y en a déjà eu au Michigan, mais ils ont déjà été là et ils ne parlaient pas le même français qu'on parle à Montréal ou à Moncton ou à Saint-Boniface ou en France ou ailleurs. Et pour rendre justice à cette communauté inventée, ben, ça leur prenait leur vraie langue, leur vrai patois, leur vrai dialecte.
Je suis très impressionnée par ces recherches sur la langue que Catherine Leroux explique ici. Mais j'ai bien peur de ne pas être capable d'en apprécier entièrement le résultat. Je ne connais vraiment pas si bien que ça le français du Québec, même si là, c'est déjà le troisième livre québécois dont on vous parle dans Vortex et Rotative cette année, et qu'on s'est dit plus d'une fois à quel point on trouve ça précieux de mieux connaître ces variantes du français, trop souvent dépréciées. Ce qui fait la différence entre le québécois et le français de France, c'est notamment qu'il y a plus d'anglicismes et aussi du vocabulaire datant parfois de l'époque où l'évolution de ces langues s'est séparée et que pour les oreilles de françaises peut sonner comme des archaïsmes. Comme ce sont ces mêmes éléments dont l'autrice s'est servie pour construire la langue de cette communauté fictionnelle, j'ai du mal à me rendre compte pleinement de son caractère inventé. Ça n'empêche que la langue est très belle. Tout comme l'écriture de Catherine Leroux, qui regorge d'images et de formulations recherchées et originales, et qui fait définitivement partie des raisons qui nous ont fait apprécier ce livre.
C'était le 28e épisode de Vortex et Rotative. On vous a parlé du roman L'Avenir de Catherine Leroux, paru en 2020 aux éditions Alto au Québec et en France chez L'Asphalte Édition, en 2022 pour le grand format et en 2023 pour le poche. Le livre poche fait 326 pages.
L'émission est montée avec des bouts de musique du guitariste californien Mason Lindall.
On est toujours à un rythme bimestriel et on vous retrouve donc dans 2 mois avec un nouvel épisode de Vortex et Rotative. Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.